Je vous invite à retrouver Matthieu chapitre 5. Et nous allons ce matin méditer sur la dernière partie de ce chapitre où Jésus donne le vrai sens et la vraie plénitude à la loi de Dieu, ce que Dieu exige de nous. Donc nous allons lire dans un premier temps les versets 17 à 20 et ensuite les versets 43 à 48. Le Seigneur nous dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements, il parle des enfants de Dieu qui le feraient, il parle même pas des non-chrétiens, et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Verset 43. Donc, dernier paragraphe du chapitre. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers, les collecteurs d'impôts qui étaient connus pour leur fraude, leur mauvaise vie, les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Quand notre Seigneur est venu, il a dû redresser les choses. Les pharisiens et les scribes, qui auraient dû être les enseignants du peuple de Dieu, avaient tronqué la loi de Dieu, avaient enseigné au peuple que Dieu ne leur demandait pas tout ce qu'ils demandaient. Ils avaient mis beaucoup d'eau dans le vin. Ils avaient arrondi les angles. Ils avaient adapté la loi à leur cœur méchant. Ils avaient refait une loi qui leur correspondait à eux. Au lieu de faire venir la loi de Dieu sur le peuple, pour que la loi fasse son travail. Est-ce que la loi a fait son travail dans ton cœur? Quel est le travail de la loi dans ton cœur? Il y a des gens qui pensent, parce qu'ils sont insensés, que la loi, c'est une échelle. En faisant ce que la loi dit, je vais arriver à Dieu. Je vais me faire accepter par Dieu. C'est de la folie totale. C'est exactement le contraire. La loi est une sorte de miroir qui me montre que je n'arrive pas à grimper cette échelle, que je n'arrive pas à obéir, que ce que Dieu exige de l'homme, je ne le fais pas. Quelque chose ne va pas chez moi, ne va sérieusement pas. Donc le premier but de la loi, c'est un peu comme un médecin qui décrit à un homme malade comment va un homme en bonne santé? Il lui dit, l'homme en bonne santé, il se couche, et le sommeil vient assez facilement. Après une bonne nuit de sommeil, il se lève, il se sent reposé. Et quand il mange, ça passe bien, il digère bien, il a de la force, de l'énergie dans la journée. Quand il y a des bactéries, des virus, son corps lutte efficacement. Il ne tombe pas malade à chaque fois. Et donc il lui décrit. Mais ce n'est pas pour que l'homme malade se dise, allez, je vais me ressaisir, je vais être un homme en bonne santé. Ce n'est pas pour ça qu'il lui décrit. C'est pour qu'il sache qu'il est malade, qu'il n'est pas en bonne santé, qu'il ne correspond pas à ça. Le médecin lui dit ça afin de le convaincre, laisse-moi te soigner. Et Jésus vient nous donner sa loi, non pas parce que ainsi nous allons tout obéir, mais tout, pour nous montrer que nous, ça va pas chez nous et que nous avons besoin qu'il nous soigne. Ça, c'est le premier but de la loi. Mais une fois que le Seigneur nous convainc que nous sommes mauvais, des pécheurs, coupables, condamnés, et que nous avons besoin justement d'être pardonnés et ramenés à Dieu, une fois que nous sommes ramenés à Dieu, la loi de Dieu devient notre voie. Devient, parce que nous avons une nouvelle capacité. Nous arrivons petit à petit à marcher sur cette voie. Et voilà une nouvelle voie pour l'humanité. Une nouvelle manière de vivre. C'est la voie, VOIE, c'est le chemin de ceux qui sont dans le royaume. C'est une manière céleste de vivre. Et donc, Jésus termine son exposition de la loi, comme toujours, en corrigeant les pharisiens qui avaient tellement tordu la loi et en donnant à la loi son plein sens. Notre première question, c'est comment est-ce que les pharisiens tordaient le commandement d'aimer? Et comment est-ce que nous, chacun de nous ici, nous avons tendance à tordre, à diminuer, à arrondir les angles de ce que Dieu exige de l'homme quant à l'amour. Alors, nous lisons dans le verset 43, vous avez entendu qu'il a été dit par les pharisiens, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà l'enseignement que les pharisiens donnaient. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Jésus le dit et les gens dans la foule savent que c'est exactement ce qui leur a été enseigné. Nous sommes un peu plus subtils, mais les hommes dans ce monde croient la même chose, exactement. Et ils se disent la même chose. Mais Jésus va corriger cette distorsion, cette perversion de ce que Dieu veut de nous. Et il faut d'abord que nous lisions le passage qui est cité par Jésus. Tu aimeras ton prochain. Ça se trouve en Lévitique chapitre 19. Je vous lis le passage dans son contexte. Écoutez bien. Verset 16, pour avoir le contexte. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple, tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune entre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Maintenant, si nous lisons la version des pharisiens, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, nous voyons deux problèmes. D'abord, les pharisiens ont enlevé les mots comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a plus ça. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Parce que aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même, lui donner la même place dans ton souci que tu as toi-même dans ton souci, alors, c'était trop pour les pharisiens. Deuxièmement, ils ont ajouté ces paroles, tu haïras ton ennemi. Ces paroles ne se trouvent pas du tout dans ce texte. Et au contraire, l'Ancien Testament, la loi que Jésus interprète, dit exactement le contraire. Allons à la fin de ce même chapitre, Lévitique 19, que je viens de vous citer, et vous trouvez ce verset 34. Écoutez bien. Tous les Juifs connaissaient. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrant dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel. Ce verset nous montre que les pharisiens avaient dit que tu aimeras ton prochain. Ton prochain, c'est seulement les Juifs. Donc, les autres, tu peux les haïr, les haïr. Or, ce verset nous dit exactement le contraire. Tu aimeras l'étranger exactement comme ton peuple. Tu l'aimeras, l'étranger, comme toi-même. Mais si nous allons en arrière un tout petit peu, le livre avant Lévitique, Exode chapitre 23, nous lisons quelque chose encore plus étonnant dans les versets 4 et 5. Écoutez bien. Lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi ou son âne qui s'est égaré, tu le lui ramèneras. Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi, succomber sur sa charge, et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. Dans ce verset, nous voyons que Dieu commande à son peuple de faire du bien à celui qui a de la haine pour toi, et de ne pas rendre haine pour haine, mais rendre le bien pour le mal. Donc Jésus corrige et il dit, moi je vous dis, tu aimeras ton prochain, pardon, je reviens au passage, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraite et qui vous persécute. Nous pouvons facilement dire, mais ça c'est les pharisiens, c'est pas nous aujourd'hui. Mais si nous regardons de près notre société, nous définissons l'amour de manière à faire exactement la même chose. C'est quoi l'amour aujourd'hui pour les hommes en France? C'est quoi aimer? Plus ou moins, l'amour que, selon la pensée française aujourd'hui, c'est ce que les Grecs appelaient Eros. Les Grecs avaient quatre mots pour aimer. Un amour d'amitié, un amour qui était plus sacrificiel, agapé, un amour Eros. Et cet amour, Eros, c'est un amour où tu aimes quelqu'un à cause des bonnes qualités de cette personne. D'accord? Tu affectionnes. Tu aimes une fille parce qu'elle est belle. Tu aimes cet homme parce qu'il est intelligent ou il est aimable. Et donc cet amour, c'est plus ou moins la définition de l'amour aujourd'hui. Lorsque c'est un amour de désir, d'accord? L'amour Eros dépend des qualités aimables dans l'objet. Tu aimes parce qu'elle est belle. Lorsqu'elle n'est plus belle, ton affection diminue. Et j'entends des jeunes hommes dire aujourd'hui, un homme ne peut pas être marié à une seule femme toute sa vie. Je sais que quand ma femme deviendra âgée, je vais la divorcer pour prendre une femme plus jeune. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Parce que pour lui, aimer sa femme, c'est Eros. C'est la désirer pour ce qu'elle peut lui donner. C'est la désirer pour ses qualités qui lui plaisent. Et lorsque ces qualités diminuent, pour certaines d'entre elles, alors je n'ai plus le même désir pour elle. Donc aimer, c'est désirer. Et l'amour Eros, c'est un désir de posséder l'autre. Et lorsque on dit en France aujourd'hui, je t'aime, ça veut dire plus ou moins je te désire. Je te veux pour ce que tu peux me donner, pour certaines qualités que tu as. Je veux me jouir de ce que tu... J'aime le chocolat, n'est-ce pas? J'aime cette voiture et j'aime cette femme. Et c'est au même titre. Et comme nous définissons l'amour comme ça, nous nous permettons de ne pas aimer celui qui n'est pas aimable, celle qui n'est pas belle, celui qui n'est pas fidèle ou marrant ou intéressant. Et nous fonctionnons constamment comme ça. Regardez notre attitude envers d'autres peuples ou des gens qui sont méchants avec nous, qui sont peu aimables. Et on verra tout de suite que nous le croyons en fait complètement légitime et justifié de ne pas les aimer, de simplement les éviter. Nous nous disons que notre seul devoir, c'est de ne pas leur faire violence. Mais Jésus nous pousse à aller beaucoup plus loin, que Dieu tient, il vous exige que vous les aimiez. Et je veux vous montrer pourquoi aujourd'hui. Donc ça, c'est les pharisiens et leur manière de tordre le commandement. Deuxièmement, Jésus nous révèle le vrai sens de l'amour, tel que Dieu l'a et tel que Dieu le veut chez vous. Son commandement divin d'aimer. Alors, d'abord, l'exigence fondamentale. Jésus dit, aimez vos ennemis. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bien sûr, il veut dire, aimez tout le monde. N'est-ce pas? Aimez votre prochain, mais il veut montrer que votre prochain, ça inclut tout le monde. Aimez vos ennemis. Aimez tout le monde. Et cela inclut ceux qui ne sont pas aimables. Qui est votre ennemi? Est-ce que vous avez des ennemis? Je pense qu'il n'y a personne ici qui n'a aucun ennemi. Alors, regardez le passage, on va définir. Verset 44. Ceux qui vous maudissent, ceux qui vous haïssent, j'ai plusieurs personnes qui me haïssent, ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous persécutent. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment seulement, sous-entendu, vous devez aimer ceux qui ne vous aiment pas. Alors vos ennemis sont ceux qui ne vous aiment pas. Verset 47. Si vous saluez seulement vos frères, en d'autres termes, vous devez saluer ceux qui ne sont pas frères pour vous. Et verset 45. Les méchants et les injustes. Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les injustes. Ceux qui sont méchants, injustes, qui vous maudissent, qui vous maltraitent, qui ne vous aiment pas, qui vous persécutent, aimez-les. Aimez-les. Alors, qu'est-ce que cet amour? Jésus nous dit, que nous devons aimer notre prochain comme toi-même. C'est sa loi. Ça veut dire tout simplement que aimer, ce n'est pas simplement vouloir quelqu'un parce qu'il est attrayant. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. C'est chercher son bien. C'est vouloir sincèrement et réellement qu'il soit béni. Le bien que vous voulez pour vous-même, le vouloir franchement pour lui et agir pour le procurer pour lui. Vous comprenez donc, bien j'espère, la différence entre aimer et affectionner. On a ce problème en français, d'un manque de vocabulaire, parce que souvent on dit aimer quelque chose et en réalité on ne veut pas dire aimer, on veut dire affectionner. Dieu ne vous commande pas d'affectionner tout le monde. Dieu ne vous commande pas d'avoir de l'affection pour quelqu'un qui est complètement mauvais, d'affectionner un Hitler. Ce n'est pas un commandement d'avoir ce plaisir dans quelqu'un qui n'est pas plaisant. Mais même cette personne qui n'est pas plaisant et en qui vous n'avez aucun plaisir, vous devez aimer. Vous devez chercher son bien. Et c'est ça le sens de ce commandement du Seigneur. Alors comment est-ce que l'amour s'exprime et l'amour pour nos ennemis? Alors regardez le verset 44. Nous allons voir que Jésus dit que si vous aimez quelqu'un, on peut le détecter. On peut le voir par quatre choses. Les paroles, les gestes, la prière et la salutation. D'abord les paroles. Jésus dit au verset 44, « Bénissez ceux qui vous maudissent. » Alors, bénir quelqu'un, il n'est pas en train de parler de la prière, il est en train de parler de vos paroles au sujet de quelqu'un ou à quelqu'un. Savez-vous ce que ça veut dire bénir? Bénir, ça veut dire du bien. Dire du bien. Et bénissez ceux qui vous maudissent, ça veut dire que vous parlez en bien à quelqu'un et vous parlez bien de quelqu'un qui est votre ennemi. Je vous donne un petit exemple qui se trouve dans 2 Samuel. Vous savez que le roi David était traqué pendant des années par Saül, le roi David. Avant d'être roi, il était traqué par le roi Saül qui ne voulait pas qu'il prenne sa place. Et Saül a littéralement essayé de tuer David pendant des années. Quand Saül, il était extrêmement méchant et injuste envers David pendant des années. Il a essayé de ruiner sa vie, de calomnier et de tuer David. Mais quand Saül est mort, qu'est-ce que David a dit au sujet de Saül? Il a composé un chant et dans ce chant, il chantait les exploits de Saül. Il cherchait tout ce qu'il pouvait trouver de bien en Saül. Parce que même dans une personne méchante, il y a certaines choses qui sont bien. Et par exemple, dans ce chant, il dit ceci à tout Israël. David chante ce chant au sujet de Saül et son fils Jonathan. Il dit, devant le sang des blessés, devant la graisse des héros, l'arc de Jonathan ne reculait pas, l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Donc c'était des héros guerriers. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort, parce qu'ils sont morts au même moment. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que des lions, chante David au sujet de celui qui essaie de le tuer. Fille d'Israël, pleurez sur Saül, David dit, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait une parure d'or sur vos habits. Il disait tellement de bien de Saül. Or, Saül, jusqu'à la fin de sa vie, a essayé de tuer David. Bénissez ceux qui vous maudissent. Je vous demande, quand quelqu'un commence à parler d'une personne qui est votre rivale ou qui a été méchant envers vous, et cette personne qui commence à raconter les défauts de cette personne, que faites-vous? Est-ce que vous rejoignez le jeu pour ajouter, ah oui, et aussi? Ou bien est-ce que vous essayez de tempérer cette personne? Mais oui, je le sais. Mais il a beaucoup de bagages dans sa vie. Il faut comprendre que son passé n'a pas été facile. C'est pas pour excuser sa méchanceté, mais c'est pour quand même aimer cette personne et comprendre et compatir à ce qu'il est, à ce qu'il est devenu. Nous pouvons donc nous tester en nous demandant quelles sont nos paroles au sujet des gens qui ont été injustes envers nous. Deuxièmement, les gestes. Verset 44. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. Imaginez deux hommes d'affaires qui sont rivaux dans leur compagnie et qui ne s'aiment pas du tout, qui ont essayé dans le passé chacun de couper la branche sous l'autre, de prendre l'affaire de l'autre. Et ce comportement a tendance à continuer à l'infini. Mais la Bible dit que si vous avez un rival qui essaie de vous prendre vos affaires, de vous ruiner, de vous rendre difficile la vie, aimez-le, cherchez son bien, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Essayez de l'aider à réussir dans son affaire, dans la compagnie. Aimez ton prochain comme tu voudras qu'il te traite. À toi-même, traite-le de la même manière. Troisièmement, troisièmement, la prière. Les paroles, les gestes, la prière. 44. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La prière est née de l'amour. Quand nous prions pour quelqu'un, c'est parce que nous l'aimons. Et quand nous prions pour... Nous le faisons un devoir, nous chrétiens, de prier pour nos ennemis. Il y a des gens, quand on est pasteur, on se fait des ennemis. En annonçant la vérité de Christ, en annonçant l'évangile, je me suis fait des ennemis qui ont essayé de tout faire pour ruiner ma vie. Qui ont envoyé des lettres avec des calomnies à mon église pour dire des choses qui n'étaient pas vraies. Qui ont essayé de dire que j'étais pas digne d'être pasteur. Et je me fais un devoir de prier depuis des années pour ces personnes, de prier pour leur bien. Ô Seigneur, bénis telle personne, agis dans sa vie, conduis-le vers toi-même, vers ce bonheur qui se trouve dans ta vérité, dans ton amour, dans tes voies. Est-ce que vous priez pour des gens que vous n'affectionnez pas? C'est un commandement. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et quatrièmement, la salutation. Regardez le verset 47. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? L'amour se manifeste aussi par le fait que je salue. C'est bizarre que Jésus mette la salutation. On aurait envie de dire, mais ça n'a presque pas d'importance le fait de saluer quelqu'un. Mais je vous assure que presque la première chose à disparaître lorsque vous n'aimez pas quelqu'un, c'est que vous ne le saluez plus. Vous évitez cette personne. Vous ne lui donnez pas bise. Et le Seigneur dit que l'amour passe par les gestes, par les bonnes paroles qui bénissent. par les prières et aussi par la manière dont nous saluons les gens. Maintenant, Jésus nous montre ce que c'est qu'aimer ses ennemis, mais il nous montre aussi l'insuffisance de notre amour déformé et tronqué. Nous lisons les versets 46 et 47. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ?» Rappelez-vous que les publicains... Bon, je vais finir la phrase. « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ?» Aujourd'hui, au lieu de parler des publicains et des païens, nous dirions « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire ?» Même Hitler, même les membres des cartels de la drogue aiment ceux qui les aiment. Même le Ku Klux Klan s'aime entre eux. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous aimez les gens qui sont aimables, mais tout le monde fait ça. Même si vous aimez fort ceux qui vous aiment, ils font autant. Les pires hommes du monde, ils font autant. Ils font exactement comme vous. Et par cela, vous montrez que vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Parce que vous agissez selon une voie qui correspond parfaitement au pire des hommes. C'est choquant, choquant, choquant pour les pharisiens et les scribes, ces hommes tellement religieux, d'entendre que même les païens et même les publicains font autant que leur enseignement. Et il est en train de nous montrer que la pierre de touche d'un vrai chrétien, la manière de savoir si vous êtes vraiment né de nouveau et entré dans le royaume de Dieu, c'est que vous faites quelque chose qui est complètement impossible au monde. Vous vous dirigez d'une manière qui est complètement différente et nouvelle. Vous aimez vos ennemis, mais vraiment, parce que lorsque vous étiez ennemi de Dieu, il vous a aimé. Est-ce que ça vous décrit cette description de l'amour ou est-ce que ça vous dévoile et vous expose comme quelqu'un qui n'est pas encore dans le royaume et qui a besoin de vous repentir, de venir à Christ pour te pardonner? Je finis avec le dernier point. Jésus nous apprend le but glorieux de sa loi d'amour. Pourquoi est-ce que Dieu nous commande d'aimer tellement fort? Le but de Dieu en donnant cette loi est magnifique. Jésus nous dit dans le verset 45, je vais remonter au 44 pour que vous compreniez. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alors, c'est alors que vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Dieu nous commande d'aimer comme cela parce que lui-même, il est comme cela. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des récoltes, des oppresseurs, des hommes méchants, et Dieu est en train de faire pleuvoir sur ces récoltes, des hommes mauvais, des hommes qui vendent de la drogue. Ce n'est pas pour cautionner le mal qu'ils font, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas pour les aider dans le mal qu'ils font. Dieu bénit les méchants et les justes. Et il aime le méchant et par sa bonté, il l'appelle. Reviens à moi. Ne reste pas dans ta méchanceté. C'est une manière de dire aux hommes, de la part de Dieu, c'est encore le jour de grâce. Le jour viendra où il n'y aura plus de grâce, où tu seras en dehors de l'amour de Dieu pour tout jamais. Le jugement viendra et Dieu punira le méchant qui insiste de rester dans sa méchanceté. Mais en faisant pleuvoir sur les méchants, en faisant lever son soleil sur les injustes, Dieu les aime, cherche leur bien pendant qu'il est temps, et leur dit, je vous aime, non pas parce que vous êtes aimables, mais parce que je suis aimant. Je vous aime. C'est une bonne nouvelle pour nous, parce que nous avons tous été injustes et méchants envers Dieu, n'est-ce pas? Agissant comme s'il n'existait pas. Nous faisons fi de sa loi. Et heureusement, il a aimé ses ennemis que nous étions. La Bible dit ceci au sujet donc de cet amour de Dieu qui est vraiment incroyable. Il dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais sans ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, ennemis. Christ est mort pour nous. Le but de ce commandement d'amour, c'est Dieu qui est en train de vous dire deux choses. D'abord, soyez comme moi. Soyez parfait comme votre Père aux cieux est parfait. C'est la dernière phrase du chapitre. C'est ça, l'appel des appels. Dieu nous appelle à être comme lui-même. Il n'y a rien de plus haut, de plus grand, de plus merveilleux que Dieu lui-même. Et Dieu a le droit d'imposer ce qu'il est sur sa créature. Il a le droit de dire, vous devez être comme moi. Je suis l'Éternel. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Je suis l'Éternel. Je vous ai fait pour être mon image, un miroir de moi. Parce que vous écartez de moi, c'est tomber dans le mal. Soyez parfait comme votre Père aux cieux est parfait. Et ainsi, le Seigneur nous fait le plus grand bien en exigeant que nous devenions de plus en plus comme lui et que nous aimions comme lui. Que le Seigneur nous aide vraiment à savoir qu'il n'y a rien de plus important pour le chrétien d'aimer, aimer, aimer et de ne jamais permettre la moindre rancune, amertume, conflit, haine, jalousie de rentrer dans notre cœur au sujet de qui que ce soit. Et je sais que c'est difficile. Mais dès que nous le faisons, nous rompons notre communion avec le Seigneur et nous nous écartons de qui Dieu est et de qui nous devions être. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous allons chanter pour terminer notre culte 263. 263. Et nous le chanterons deux fois. C'est juste un petit.